Lizzie présente L'inconnu de la forêt de Harlan Coben, lu par Audrey Fleuron. À Ben Sévier, éditeur et ami, 12 livres plus tous ceux à venir. Extrait de la North Jersey Gazette, 18 avril 1986. Un enfant sauvage à l'abandon, trouvé dans la forêt. Immense mystère autour de la découverte d'un Mowgli vivant. Westville, New Jersey. Voici l'une des affaires les plus étranges de l'histoire récente de notre petite ville. Un jeune garçon dépenaillé, âgé entre 6 et 8 ans, a été découvert vivant seul dans la forêt domaniale des monts Ramapo, près de l'agglomération de Westville. Plus étrange encore, les autorités ignorent qui est ce garçon et depuis combien de temps il vivait ici. « On dirait Mowgli du Livre de la Jungle », a déclaré Oren Carmichael, chef adjoint de la police de Westville. L'enfant, qui comprend et parle notre langue, même s'il ne connaît pas son nom, a d'abord été aperçu par Don et Leslie Katz, deux randonneurs de Clifton, New Jersey. On était en train de ranger notre pique-nique quand on a entendu un bruissement dans les fourrés, raconte M. Katz. J'ai eu peur que ce soit un ours. Puis nous l'avons vu détaler aussi clairement que je vous vois. Les gardes forestiers, accompagnés de la police municipale, ont retrouvé le garçon, maigre et vêtu de guenilles, dans un abri improvisé 3 heures plus tard. À ce moment-là, nous ne savons pas combien de temps il a passé dans la forêt, ni même comment il est arrivé là, explique le chef du district forestier de New Jersey, Tony Origema. Il ne se souvient ni de ses parents, ni d'aucune figure adulte. Nous avons contacté d'autres représentants des forces de l'ordre, mais jusqu'ici, il n'y a eu aucune disparition d'enfant correspondant à son âge et à son signalement. Dans le courant de l'année, les randonneurs avaient déclaré avoir entrevu un sauvageon ou un petit tarzan. Leur description collait à celle de l'enfant, mais la plupart des gens ont classé leur récit au chapitre des légendes urbaines. D'après James Mignonnet, un randonneur de Morristown, New Jersey, c'est comme si quelqu'un l'avait mis au monde pour l'abandonner dans la nature. C'est le plus extraordinaire cas de survie que nous ayons jamais vu, ajoute le chef de district Origema. Nous ignorons si cet enfant était là depuis des jours, des semaines, des mois, voire des années. Quiconque aurait des informations sur le jeune garçon est prié de contacter la police de Westville. Il y a bien quelqu'un qui doit savoir quelque chose, dit le chef adjoint de la police. Ce garçon n'est pas apparu dans la forêt par magie. Première partie. Chapitre 1. 23 avril 2020. Comment fait-elle pour survivre ? Comment arrive-t-elle à supporter ce calvaire quotidien ? Jour après jour, semaine après semaine, année après année. Elle assiste aux réunions d'élèves, l'œil fixe, vitreux, dénué d'expression. Son visage est de marbre, un masque. Elle ne tourne pas la tête, ne bouge pas du tout. Elle regarde droit devant elle. Elle est entourée de ses camarades de classe, dont Matthew, mais elle ne se préoccupe pas d'eux. Elle ne leur parle pas. Pourtant, cela ne les empêche pas de l'apostropher. Les garçons, Ryan, Crash, c'est son vrai nom, Trevor, Carter, l'abreuvent d'insultes, lui murmurent des horreurs, se moquent d'elle, ricanent avec mépris. Ils la bombardent de trombones, d'élastiques, de crottes de nez. Ils fourrent des bouts de papier dans leur bouche et les transforment en boulettes humides qu'ils projettent dans sa direction. Quand elle s'accroche à ses cheveux, il rit encore plus fort. La fille, qui se prénomme Naomi, ne bronche pas, ne cherche pas à retirer les boulettes de ses cheveux. Elle continue à fixer le vide. Ses yeux sont secs. Matthew se souvient d'un temps, 2 ou 3 ans plus tôt, où ses yeux s'embuaient pendant qu'elle se faisait chambrer impitoyablement. Mais plus maintenant. Matthew observe et ne fait rien. Les professeurs, blasés, y prêtent à peine attention. L'un d'eux lâche avec lassitude « C'est bon, Crash, ça suffit !» Mais Crash, comme les autres, s'en fiche royalement. Entre-temps, Naomi continue à encaisser. Matthew devrait faire quelque chose pour mettre fin à ce harcèlement. Mais il ne bouge pas. Il a essayé une fois et ça a mal tourné. Matthew cherche à se rappeler le moment où les choses ont commencé à se gâter pour Naomi. Elle avait été heureuse à l'école élémentaire, toujours souriante, pour autant qu'il s'en souvienne. Certes, elle s'habillait dans des friperies et ses cheveux n'étaient pas toujours très propres. Quelques filles se moquaient vaguement d'elle à cause de ça. Mais tout allait bien jusqu'au jour où, prise d'un violent malaise, elle a vomi dans la classe de Madame Walsh en CM1. Le vomi a ricoché sur le lino, éclaboussant Kim Rogers et Taylor Russell. L'odeur était si âcre, si nauséabonde, que Madame Walsh a dû évacuer la salle et envoyer les gamins, dont Matthew, dehors sur le terrain de foot. Ils sont sortis en se pinçant le nez et reniflant avec dégoût. Depuis, tout a changé pour Naomi. Matthew repensait souvent à cette journée. S'était-elle sentie mal le matin même? Son père, sa mère ne faisait déjà plus partie de sa vie à l'époque. L'avait-il envoyée à l'école de force? Les choses seraient-elles différentes si Naomi était restée chez elle ce jour-là? Cet épisode du vomi a-t-il été son point de bascule ou aurait-elle suivi inévitablement cette voie obscure et tortueuse? Une autre boulette atterrit dans ses cheveux, accompagnée de noms d'oiseaux et de ricanements cruels. Naomi attend que ça cesse, même si ça ne sera que pour un moment. Elle doit se douter que ça ne cessera jamais vraiment, ni aujourd'hui, ni demain. Le harcèlement l'accompagne où qu'elle aille. Comment fait-elle pour survivre? Certains jours, comme aujourd'hui, Matthew a envie de réagir. Le reste du temps, non. Ce harcèlement permanent, c'est comme un bruit de fond. Matthew a découvert l'atroce vérité. On finit par s'immuniser contre la cruauté. Elle devient la norme. On l'accepte, on ferme les yeux. La vie suit son cours. Naomi l'aurait-elle acceptée, elle aussi? S'est-elle immunisée? Il n'en sait rien. Mais elle est là, chaque jour, assise au fond de la classe, au premier rang dans les réunions, seule à une table dans un coin de la cafétéria. Jusqu'au jour où, une semaine après cette réunion, Naomi disparaît. Et Matthew veut savoir pourquoi. Chapitre 2.
« Y a pas photo, ce type-là devrait être en prison !» décréta le bobo branché.
Sur le plateau, Esther Krimstein s'apprêtait à contre-attaquer lorsque, du coin de l'œil, elle aperçut quelqu'un qui ressemblait à son petit-fils. Les lumières du studio l'empêchaient d'y voir clair, mais franchement, on aurait dit Matthew.
« Comme vous y allez !»
Le présentateur de l'émission, ex-beau gosse au look sport chic qui animait les débats en plaquant une expression perplexe sur son visage, comme si ses invités étaient tous des demeurés, demanda « Une réaction, Esther ?» L'apparition de Matthew, ce ne pouvait être que lui, l'avait déboussolée. « Esther !» Ils étaient à l'antenne, ce n'était pas le moment de se laisser distraire.
« Je vous trouve indécent, » dit-elle.
« Pardon ? Vous m'avez bien entendu ?» Elle darda son fameux regard qui tue sur Bobo Branché.
« Indécent !
Que vient faire Matthew ici ? Son petit-fils n'avait encore jamais débarqué sur son lieu de travail à l'improviste, ni au cabinet, ni au tribunal, ni sur le plateau de télévision. « Vous voulez bien préciser votre pensée ?» s'enquit l'animateur sport chic. « Volontiers. » Le regard revolver était toujours braqué sur Bobo Branché.
« Vous haïssez l'Amérique.
Quoi ? Sérieusement ? » poursuivit Esther, en levant les mains. « À quoi nous sert un appareil judiciaire, hein ? Qui a besoin de ça quand on a l'opinion publique ? Pas de procès, pas de jury, pas de juge. C'est aux adeptes de Twitter de décider. » Bobo Branché se redressa légèrement.
« Je n'ai pas dit ça.
C'est exactement ce que vous avez dit. Il y a des preuves, Esther. Une vidéo parfaitement nette.
Ah oui, une vidéo. »
Elle remua les doigts comme si elle était en train de parler d'un fantôme. Donc, encore une fois, pas besoin d'un juge ni d'un jury.
À vous, le leader autoproclamé des adeptes de Twitter.
Je ne suis pas. Taisez-vous quand je parle. Désolé, j'ai oublié votre nom. Comme je vous ai surnommé Bobo Branché dans ma tête, je vous appellerai Chad, ok ? Il ouvrit la bouche, mais Esther enchaîna. Parfait. Dites-moi, Chad, quel serait le châtiment approprié pour mon client, d'après vous ?
Puisque vous vous arrogez le droit de le déclarer innocent ou coupable, autant prononcer la sentence, non ?